En vous lisant, je me suis rappelé avoir présenté, il y a bien longtemps maintenant, le livre de Robert Castel, 1995, Les métamorphoses de la question sociale. Et je me souviens qu'en fin d'exposé, je l'avais interrogé sur les traces, les modalités de ce qu'il appelait l'effritement de la société salariale. Je ne sais pas si vous m'avez répondu, Robert, à cette époque-là, mais en tout cas, vous apportez une réponse, un début de réponse, en tout cas, que je trouve extrêmement important. Voilà, je trouve que c'est votre devoir de garder ça. Il me semble que c'est une contribution importante à l'étude, justement, de cette périphérie effritée de la condition salariale. Voilà, je trouve que voilà, c'est, de ce point de vue-là, un livre tout à fait important. Je veux dire aussi, ça a encore des fleurs, mais j'aurais eu une oreille des fleurs. Je trouve aussi que c'est un travail exemplaire, je trouve, pour qui est un peu confronté assez souvent même, un travail exemplaire de transformation éditoriale d'une thèse en un livre de sociologie lisible par des sociologues, bien sûr, mais pas seulement par des sociologues. C'est, comment dire, d'une taille raisonnable, hein, quoi. Voilà, c'est pas dissuasif par sa taille, du moins. C'est d'une écriture tout à fait limpide. Ce sont des simplets pour autant. C'est exempt de jargon sociologique inutile, sans pourtant rien céder, je crois, d'essentiel à la rigueur scientifique, à l'intention scientifique. Voilà, la clarté enfin d'un ordre d'exposition que j'ai reprendre à mon compte, parce que franchement je ne vois pas ce que je pourrais faire de mieux, sauf que j'ai rajouté une partie, mais enfin voilà, il y a donc une double enquête, donc il y a deux parties, distribuées en six chapitres, ces deux enquêtes et ces deux parties, c'est d'une part genèse du régime de l'auto-entrepreneuriat, et d'autre part, les modalités d'appropriation de ce dispositif d'auto-entrepreneur, où vous mettez en évidence à la fois la diversité des profils d'auto-entrepreneurs et la diversité des usages de ce type de dispositif. Voilà, donc je vais suivre à la lettre votre plan, parce que vraiment, j'en vois pas d'autre, il n'est pas mieux, je crois. Je rajoute très simplement une partie, mais voilà, qui est... in fine, qui est une façon de mettre en évidence des choses que vous dites, hein, je n'apporte rien du tout. Donc d'une part, je vais d'abord commencer par parler de se reconstituer brièvement cette genèse du régime de l'auto-entreprise, puis les modalités d'appropriation du dispositif, et enfin je rajouterai une petite partie qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, libéraliser la société par le bas, donc parler en fait, essayer de montrer comment ce dispositif s'intègre dans des stratégies très générales, des stratégies politiques néolibérales, comment ça prend place là-dedans, quelle place particulière, c'est à la fois exemplaire et voilà, dans ces stratégies néolibérales. Voilà. Alors, genèse du régime en question. Il s'agit donc d'une histoire sociale, de la mise en place et des transformations d'un dispositif. Ça semble tout à fait exemplaire. On va commencer par. Je vais essayer de simplifier, hein, d'aller plus vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'une part, vous montrer d'abord donc comment, à la fin du 19e siècle, on assiste en France au développement du salariat et à la mise en place progressive d'un système de protection sociale dès le travail. Ça, c'est du Castel.
Oui, hein. C'est pas
utile. Voilà. Donc, je rappelle, non, mais c'est utile, hein, d'avoir ce cadre dans la tête. Hein, c'est 60% des actifs au début du XXe siècle, 90% vers la fin du XXe siècle. Donc, voilà, la société salariale, presque plus des salariés, et parallèlement, le déclin du travail indépendant, agriculture, artisanat, commerce, dont on sait qu'en France, ça a duré pendant très très, très, très très longtemps, plus longtemps en tout cas qu'ailleurs. Donc là, bon, voilà, on est en fin du XXe siècle, on est enfin dans la société salariale. Et en même temps, c'est aussi le moment où ça commence à mal tourner, c'est la fin des années 70, c'est aussi le moment de ce que Castel épinglait comme l'effritement de la société salariale qui se fait jour avec la mise en place accélérée depuis, je crois, des politiques néolibérales caractérisées par bien des choses, dont le désengagement de l'État. Alors, je vais rappeler les étapes que vous indiquez avant d'y revenir un peu plus précisément. Une date importante, c'est sans doute l'arrivée... au gouvernement de Raymond Barre, voilà, qui va faire la promotion de la petite entreprise individuelle, mais initialement pour les cadres, voilà, donc il vise une population particulière de ce point de vue-là, et en concevant ce dispositif dont je parlerai plus tout à l'heure, comme un moyen de lutter contre le chômage. Sarkozy, bon, 2008, un deuxième personnage important dans cette histoire-là, hein, qui va inviter à créer son propre emploi, à inviter tout le monde au self-help, tous autour d'entrepreneurs, etc. Voilà. Bon, voilà. 2006-2011, où est-ce qu'on en est? Bah, ça progresse de 26%, hein, je crois. Aujourd'hui, on en est à plus d'un million d'auto-entrepreneurs, ça fait du monde quand même. Hein, ça fait... Mais bon, il faut quand même savoir que sur ces 1 million, après 3 ans d'exercice, il y en a 90% qui gagnent moins que le SMIC. Bon, donc ça relativise un petit peu l'enthousiasme par rapport à cette floraison extraordinaire des auto-entreprises. Et puis, bon, la suite du film, c'est les processus dits d'ubérisation dont on parle aujourd'hui avec Uber, bien sûr, Amazon, Deliveroo, etc. Processus donc d'externalisation croissant de travailleurs supposés eux aussi indépendants. Avec quand même, j'ai vu ça dans les journaux, parce que je m'intéressais à la question, un récent arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2018, c'est tout récent, qui vient de casser un jugement rétablissement. Le statut de salarié pour un mec qui faisait des courses en vélo, hein, c'est ça, je crois. Voilà. Bon. Alors, je reviens un peu plus en détail. 1976, donc, Barr, qui est à la fois Premier ministre et ministre des Finances, on peut dater, si on doit dater l'avènement ou le basculement néolibéral en France, Barr est un bon exemple, je crois, donc il est à la fois Premier ministre. Hein. C'est le traducteur de Hayek, je l'ignorais, je l'ai appelé en vous lisant, traducteur de Hayek, que Giscard présentait, ça je m'en souviens, comme le meilleur économiste de France, je l'ai eu comme prof. Hein, si on se pouvait, on s'en fait quoi, ça écoutez, terroriste, c'est trop. Bon, enfin, maintenant je ne vais pas dire du bon, oublions. Bon, voilà. Alors, à ce propos, vous signalez, vous avez raison, qu'il n'est pas tout seul, bon, Raymond Barre. Hein, en fait, il est un indicateur. L'arrivée à ses hautes fonctions indique l'emprise croissante de l'économie de marché chez les politiques et les hauts fonctionnaires en France. Vous pouvez aussi dater de ça. Enfin, regardez hein, les programmes de l'ENA de l'époque, comment ça se manifeste. Voilà, ça ne s'est pas fait en un jour ni en deux jours, et il n'est pas tout seul. Bon, il a des supporters, il a des élèves. Hein. Voilà, donc tous ces gens-là vont aussi faire la promotion de la politique de l'offre, comme on dit aujourd'hui. Voilà, et alors, c'est dans ce cadre-là qu'on peut comprendre ce truc particulier qui va consister à proposer la réorientation des salariés qualifiés, des cadres, hein, vers la création d'entreprises et la mise en place d'un premier dispositif, ACRE, aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprises, voilà, qui est une espèce d'ancêtre en quelque sorte du dispositif. Voilà. Alors, sur cette base, va se développer des inflexions, les premières inflexions à partir de cette promotion, enfin, cette première mise en place d'un dispositif favorisant l'auto-entreprise. De façon plus générale, les politiques néolibérales par rapport à l'emploi vont inciter en particulier à la reprise d'activité, donc vont être se mobiliser contre les indemnisations des chômeurs un peu trop généreuses, quoi. Donc vont promouvoir la dégressivité de l'allocation chômage, hein. C'est plus le temps passe, moins on touche dessous, et une utilisation stratégique de l'État social, dites-vous, pour promouvoir l'initiative individuelle. On verra plus concrètement comment après. Un des avantages, c'est, vous avez raison, je crois, de le signaler, c'est aussi à travers ce dispositif, un dispositif de brouillage, on pourrait dire, des frontières de classe, hein, où le chômeur devient chef d'entreprise, l'ouvrier, c'est à la même époque, on le rebaptise travailleur manuel. C'était l'époque où le vocabulaire, c'est important en politique. Bon, voilà, les ouvriers vont disparaître à Exit, ils vont devenir travailleur manuel. Il y a un article de Sylvain Laurent, c'est chez Mulcair dans la Gaume, c'était très bien, il racontait ça, plus Michi, c'est ça. Il y a. Et puis, bien sûr, ce qui va avec, ça c'est chez les sociologues, mais bon, la promotion des classes moyennes, hein, il n'y a plus que des moyens, quoi. Bon, immense pays de classe moyenne avec des très favorisés, avoir un bout, on ne parle jamais, puis ils excluent en bas les pauvres. Bon, voilà. Donc, promotion des classes moyennes, donc une espèce de. Qui est une espèce de vision de l'espace social dont on connaît, parce qu'elle est encore celle d'aujourd'hui. Voilà. Alors, Vous signalez ensuite, et je pense que c'est important, parce que d'ailleurs c'est important pour suivre l'histoire, c'est que là on est dans un gouvernement de droite, après on va passer à un gouvernement de gauche, mais il ne va pas se passer grand-chose, quoi. C'est le basculement politique en la matière ne va pas bouleverser l'ordre. L'auto-entreprise, ce sera un des aspects de la convergence droite-gauche, avec d'ailleurs pour la gauche le soutien du monde associatif qui va trouver ça très bien. Bon, donc comment l'auto-entreprise serait bien, hein, donc avec, pour des raisons faciles à comprendre d'ailleurs, quand on les regarde de près. Bon, bon, même si au début, bien sûr, on a encore une forme d'opposition, hein, qui est décelable, entre un pôle entrepreneurial de droite, c'est-à-dire qui voit dans l'auto-entreprise une promotion de l'entreprise, et puis un pôle de gauche, si on veut, qui verra plutôt une façon de lutter contre le chômage, hein, une modalité possible de lutte contre le chômage, hein, une politique du traitement social de base. Bien. Mais, bon, ça va toujours, là encore, problème de vocabulaire, la reprise du vocabulaire entrepreneurial par la gauche, Delors en particulier, qui s'illustre en la matière, mais je pense que c'était un promoteur, hein, de cet alignement lexical, hein, du vocabulaire de la gauche sur le vocabulaire de la droite. Voilà, on va inclure en particulier l'auto-entreprise dans les politiques d'insertion dites par l'économie. Je m'étais intéressé à ça au début, en fait, hein, de cette mise en place de ce truc-là. Voilà, je crois, bon, c'est pas totalement à côté de la plaque, je crois
Non, il est toujours très très
pas.
actuel.
Oui, il reste. Hein, oui, c'est marrant, j'avais oublié cet article, mais en vous lisant, j'ai repensé, je me suis dit, tiens, non, c'était pas tout à fait à côté, quoi. Non. Enfin, bref. Donc on va étendre enfin le statut d'auto-entrepreneur aux bénéficiaires du RMI. Hein, et à travers ça, on va inventer un aspect de l'économie sociale et solidaire. Voilà. À la fin des années 90, à travers le personnage de François Hurel, un personnage important dans cette histoire-là, il va s'agir de rendre le droit d'entreprendre accessible à tout. C'est vachement démocratique. Tout le monde a le droit d'ouvrir, de créer sa propre entreprise. Donc, on va ressusciter ou inventer une espèce de troisième voie. Ils n'arrêtent pas d'inventer des troisièmes voies, hein, entre le libéralisme et le socialisme. On ne cesse d'inventer des troisièmes voies. En voilà une, c'est l'entrepreneuriat populaire. Hein. Bien. Avec une injonction à l'autonomie qui va de pair, c'est la logique du workfare, hein, de l'activation des aides sociales, de la responsabilité des allocataires, du self-help, aidez-vous vous-même avant d'attendre l'aide de l'État. Enfin, on dirait Macron aujourd'hui, hein, on y est toujours. Alors, n'allons pas trop vite, n'allons pas jusqu'à Macron. Sarkozy, pourtant aussi, je crois, il marque aussi une date importante, 2007. Hein, bon, l'auto-entrepreneuriat s'est présenté comme une révolution administrative, sociale, culturelle et sociétale. Enfin, ça, c'est Hervé Novelli, le secrétaire d'État, qui va vendre la chose. Bon, donc il s'agit, dans la pensée de Sarkozy, qu'on oublie trop vite, quoi. Bon, en fait, il est intéressant, Sarko, en fait. Hein. Non, je pense réellement, si on pense à l'actualité, par exemple, les hommes de droite ne peuvent comment dire, survivre au pouvoir qu'avec le soutien d'une partie des classes populaires. Bah, c'est quand même un problème, parce que ouais, les classes populaires sont quand même beaucoup plus nombreuses, quoi. Donc, en termes de logique électorale, ça pose quand même, bon, il faut au moins arriver à en capter quelques-uns. J'évoque ça parce que, bon, je pense à Macron tout récemment, mais voilà, je me dis, Sarko était plus avide. J'ai vu ça, il a reçu Sarko la veille, hein. C'est marrant, il est venu lui donner des conseils, quoi. À la fois, à mon avis, qui sont pas seulement rhétoriques. Là, on voit bien pourquoi Sarko est meilleur, quoi, bon, avec sa logique ou son style de patron de café, et l'autre avec ce genre d'énarque-contrit, de catholique, de communion repentant. Enfin, bon, il est pas très bon, quoi, stylistiquement, mais c'est pas ça. Quant au baratin, bon, je pense que c'est important de voir, c'est le même, quoi. Bon, hein. Donc, voilà. Sarko, donc, les thèmes, tous patrons, bon, c'est important. Voilà, il faut travailler plus pour gagner plus, au boulot, pour gagner de la thune, bon, il faut tout bosser. Hein. Donc c'est la promotion de la valeur travail et tout le monde applaudit. Tout le monde trouve ça formidable. Pour des raisons, hein, on dit, c'est pas si mal vu, quoi, de plein de façons. Alors, c'est aussi comment dire, la disqualification qui va de pair avec cette qualification, parce que l'un ne se comprend pas sans l'autre, je crois, de la figure antinomique de l'assisté. Bon, l'assisté, c'est pour bien, quoi. Voilà, c'est celui qui, justement, bénéficie des ordonnances de 45, quoi, hein, de sécurité sociale, etc. Bon, donc l'assisté, la disqualification des aides sociales et donc de l'assistance. En fait, là aussi, chez Sarko, un fort tropisme sur les jeunes des quartiers. Bon, c'est ceux qui sont censés avoir plus de problèmes et des vrais emmerdeurs potentiels. Quoi. Donc, il faut faire un peu attention à eux. Donc, on va dire qu'ils sont des brouillards. Bon, et on va leur offrir l'occasion de monter leur boîte et gagner de la thune. On parle que Sarko, il parle comme ça, comme eux, croit-il. C'est pas forcément faux. Donc, voilà. Une orientation donc, qui vise, vous voyez, on fait du social, c'est-à-dire vous faites de l'économique, hein, on fait du néolibéralisme, on fait de l'entrepreneuriat, mais on le fait sur un mode social. Bon, voilà. Donc c'est, vous dites, vous parlez, je crois, l'expression est jolie, d'un transfert du référentiel entrepreneurial dans le champ des politiques sociales. Voilà, alors comment on va faire? Bon, on va simplifier, hein, c'est pas facile à faire, donc deux clics et c'est bon. Et puis ça permet aussi à tout le temps de cumuler des revenus pour d'autres, c'est-à-dire que ça ne s'adresse pas seulement aux chômeurs, mais aussi à d'autres qui peuvent, voilà, quand ils ont des retraites un peu petites, bah, après, ils peuvent faire autant d'entrepreneurs pour cumuler. Voilà. Bon. Donc, voilà, l'auto-entrepreneuriat, donc la logique de vente de ce truc-là, c'est à la fois présenté comme une solution à la crise. Hein, pour les chômeurs, etc. Et puis aussi, c'est un moteur d'ascension sociale possible, hein, y compris pour ceux qui ont très peu de ressources. Quoi. C'est à la portée de tous. Quoi. Vous pouvez mettre du beurre dans les épinards, améliorer votre situation facile. Voilà. Alors, vous montrez comment soit la mise en place de ce dispositif a-t-elle été possible, parce que d'une certaine façon, c'est une invention. Donc, là, il y a des promoteurs, on a expliqué en gros les raisons. Mais plus précis, si on regarde de plus près ce que vous faites, à mon avis, vous montrez à la fois, ce qui est, je crois, tout à fait intéressant, la convergence de trajectoires et d'habitus libéraux de gens. D'une part, qui ne sont ni énarques ni fonctionnaires, c'est intéressant, parce que c'est à la fois Hervé Novelli, le promoteur du projet, il a porté le projet, c'est un petit patron. François Hurel, c'est un commissaire aux comptes, c'est un mec qui travaille dans le privé, quoi, dans l'entreprise. Christine Lagarde, avec sa grande carrière, avocate d'affaires. Eric Woerth, conseiller juridique, etc. Donc vous voyez, bon, voilà, c'est des penseurs libéraux, des habitus libéraux, peut-on dire, mais dans le monde des affaires, quoi, dans le monde du business. Ce ne sont pas des gens de la fonction publique. Alors ils vont se heurter, c'est intéressant, enfin on verra, il y a plusieurs autres types d'opposants, mais là en l'occurrence, il y a une forte résistance, signalez-vous, des tenants de la rigueur budgétaire. Alors c'est ceux qui disent, mais attendez, à Bruxelles, là, vous savez, c'est la barre, c'est pas plus de 3%, hein, bon, moins de 3%. Bon, voilà. Néanmoins, bon, donc il y a une résistance forte de Bercy, pour qu'on raison de se quitter les cordons de la bourse, qui disent, bon, on y va doucement quand même. Et donc ils vont insister, mais finalement, les premiers vont l'emporter en insistant beaucoup sur le retard français. Pour retard français qui ne peut être comblé qu'en tentant de réconcilier les Français avec l'entreprise. Bon, voilà, il faut, donc ça, il y a un but idéologique d'autant plus fort et d'autant plus pressant qu'on fait la comparaison avec d'autres pays européens, c'est ça pour tout maintenant. Hein. On dit on est toujours en retard, quoi. On est toujours en retard sur les autres qui font, il y a toujours un autre qui fait mieux, quoi. On fait du benchmarking. Quoi. Voilà. Tout ça donc permet de comprendre que le 4-8-2008, on crée le régime de l'auto-entrepreneuriat. Alors donc, parmi les autres opposants, parce qu'il y en a d'autres qui seront jour à ce moment-là, il y a l'opposition des artisans. Alors, c'est intéressant parce que les artisans qui sont des indépendants, eux-mêmes, vont dire « oui, mais vous foutez en l'air la définition du métier, quoi, parce que n'importe qui peut faire auto-entrepreneur, n'importe qui peut devenir artisan, donc vous cassez la baraque. Et d'autre part, vous nous faites une concurrence déloyale compte tenu des conditions d'exercice de l'auto-entrepreneuriat qui sont dispensés de la fiscalité, des charges sociales, etc., qui pèsent sur les autres. » Donc, opposition des artisans, opposition aussi des administrations sociales, ceux qui gèrent la sécu, quoi, en quelque sorte, qui vont défendre la protection sociale et qui vont dire là, ça, où en fait, vous êtes en train d'officialiser le travail au noir. Quoi. Donc vous voyez, il n'y a pas... Bon, l'État, ce n'est pas une chose simple ni monolithique, c'est compliqué, il y a des oppositions, qui se font jour. Néanmoins, le statut va survivre en 2012 avec Hollande, l'arrivée de Hollande, donc ça tombe bien, il y a la question du mouvement des pigeons, des fondateurs de start-up, etc., qui vont nous créer un contexte favorable au maintien de ce type-là de dispositif. Et en définitive, bon, aboutir à l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, l'auto-entrepreneuriat va servir en quelque sorte, hein, c'est une espèce de prototype de la dynamique d'ubérisation, de ce capitalisme de plateforme qu'on voit fleurir et se développer aujourd'hui, l'externalisation des travailleurs donc dans l'économie digitale, etc. Voilà. Bon, donc c'est un espèce de projet, plus qu'un projet, d'ailleurs, c'est une réalisation qui concerne quand même pas mal de monde, et puis aussi qui prépare le terrain, en quelque sorte, pour une espèce d'extension d'une modalité très spécifique de salarié effrité. Du salarié effrité de. J'en viens aux modalités d'appropriation du dispositif, c'est la deuxième enquête de Sarah Abden. Alors, rappelons d'abord que. Tout à l'heure, ces auto-entrepreneurs sont nombreux quand même, hein, 500 000 en 2010, 1 million en 2012, ça fait du monde quand même, c'est pas significatif statistiquement. Comment est-ce qu'elle va mettre en évidence ces modalités d'appropriation du dispositif? Là encore, son analyse repose sur deux enquêtes, hein, de nouveau, une enquête statistique sur un sous-échantillon de l'enquête SINE. Système d'information sur les nouvelles entreprises, c'est une enquête de l'INSEE, donc elle va prendre un sous-échantillon là-dedans, elle va travailler sur cet échantillon pour faire une enquête statistique, pour savoir de qui ces gens-là. Et puis aussi 30 entretiens à volet ethnographique, donc 30 entretiens auprès d'un échantillon diversifié, voilà, qui est à la fois peut-être plus jeune, plus féminin, plus diplômé, dites-vous, que la moyenne de l'auto-entrepreneur lambda. Voilà, donc c'est un correctif éventuel à ce qu'on verra tout à l'heure. Alors, quelques données globales d'abord. Après 3 ans, ce que je disais tout à l'heure, 90% de ces auto-entrepreneurs dégagent un revenu inférieur au SMIC. Donc, c'est pas bien. Bon. Pour 50%, le chiffre d'affaires est égal à zéro. Pour 5%, le chiffre d'affaires est supérieur à 5 000 euros par trimestre. Vous voyez, c'est bon, c'est tout petit, quoi. C'est pas des startups. Voilà. Deuxième aspect, la diversité de ces auto-entreprises. Bon, c'est-à-dire qui se répartissent. Alors, de ces auto-entrepreneurs, pardon, qui se répartissent entre actifs et inactifs, entre stables et précaires, entre cadres et ouvriers, entre jeunes et retraités. Bon, vous voyez, c'est une population extrêmement diversifiée, hein, sous différents rapports. On peut néanmoins mettre en place pour distinguer une espèce de bipolarisation entre une minorité d'auto-entrepreneurs pour qui l'auto-entreprise est un espèce de bonus, un plus, quoi, et d'autres, pour la majorité, pour qui c'est une situation précaire. Bon, pour 55% c'est l'activité principale, 45% une activité complémentaire. Voilà, 62% des auto-entrepreneurs n'ont pas d'autres activités professionnelles. On peut mettre donc, Sarah met en évidence une tendance bipolarisée entre un travail indépendant exclusif, qui concerne massivement les travailleurs les moins qualifiés et les moins protégés, c'est-à-dire très souvent des jeunes et des femmes, et ceux, voilà, un autre pôle, pour qui c'est en fait une situation de cumul des revenus, c'est des salariés stables du privé et du public, pour qui l'auto-entreprise c'est aussi une stratégie de valorisation. Deuxième aspect, c'est les usages donc, de l'auto-entreprise par les employeurs avant de passer aux usages par les salariés. Pour les employeurs, bah, c'est simple, quoi, c'est au fond très souvent du salariat déguisé. Alors, c'est plus ou moins juridiquement reconnu comme tel, mais enfin, en gros, c'est de ça dont il s'agit. Pour les employeurs privés, il s'agit de contourner les obligations administratives, légales, économiques. C'est la flexibilité légalisé, c'est la fraude sociale autorisée, enfin bon, voilà. Hein. C'est aussi, vous le signalez, vous avez raison, hein, la mise à l'épreuve temporaire de futurs CDI, c'est-à-dire peut-être qu'ils deviendront salariés, quoi, mais on va voir avant qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Quoi, bon, hein, voilà. Voilà. Pour les employeurs publics, parce que ça existe aussi, ça, je n'ai pas pensé, mais les employeurs publics ont aussi recours à ce dispositif. Donc il s'agit en fait de pouvoir embaucher en contexte de rigueur budgétaire, ce qui est le cas. Quoi. Donc on va en particulier externaliser de cette façon le travail social, les activités culturelles, etc. Alors, c'est, vous voyez, les associations liées à la gauche, etc., dont je parlais tout à l'heure. Quoi. C'est, ouais, le travail social, maintenant, pour l'immense majorité, c'est travailler dans une association quitte à être auto-entrepreneur, c'est-à-dire avec une association capable à payer de charges sociales qui peut vous virer quand ça les arrange, etc. Voilà. Donc, voilà, ça permet en quelque sorte le contournement des contraintes qui pèsent sur les recrutements dans la fonction publique. Voilà. Donc, il y a aussi des employeurs publics en la matière. Alors, j'en viens aux usages de l'auto-entreprise par les salariés. Alors, l'évidence, bien sûr, c'est a priori sortir du salariat, quoi. Donc, vous êtes entrepreneur, ben vous n'êtes plus salarié. Alors, Sarah Desnois évoque le travail à côté. Florence Devers, ça me semble bien vu, effectivement. Bon, ça ressemble à du travail à côté, on pourrait dire en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. Enfin, étant entendu que bon, voilà, ça s'étale entre le gagne-pain lié à la nécessité ou le passe-temps, parce que c'est pour s'amuser, quoi, par plaisir. Ça permet, par exemple, de supporter l'usine sans la refuser, enfin des choses comme ça, quoi. Bon, voilà, je fais le jardin. Je me sens mieux, ça me permet de retourner au boulot demain matin. Bon, voilà. Donc ça accompagne l'éclatement du travail salarié et donc oui, par ailleurs, ça accompagne l'éclatement du travail salarié et la recrudescence du sous-emploi, du chômage, etc. Donc l'auto-entreprise se combine avec emploi stable ou précaire, temps plein ou temps partiel, inactivité, chômage, etc. C'est-à-dire que ça va presque toujours avec autre chose, quoi. Donc voilà, c'est un revenu complémentaire. Alors, sur cette base-là, Sarah Desnois distingue quatre usages, étant entendu que chaque pôle que je vais indiquer là est lui-même hétérogène. On pourrait rentrer dans les détails, évidemment. Premier usage, il s'agit de compléter un revenu principal. C'est vrai pour les salariés et pour les retraités. Bon, c'est un bonus pour les retraités qualifiés. Donc, c'est des cadres, par exemple, consultants, pour qui, ma foi, voilà, ils se retirent, ils sont retraités, mais enfin, ils continuent de. Ils sont encore en état de marche, ils peuvent compléter leurs revenus et maintenir leur niveau de vie en faisant un peu d'auto-entreprise, du consulting privé. Bon, voilà, dans certains cas, ça peut être aussi, plus souvent évidemment, un bricolage de précaires. Bon, on est dans l'ordre de la déstabilisation des stables dont parlait Castel, hein, dans le secteur médico-social, par exemple, dans le travail social. Bon, on voit ce type de bricolage de gens précaires qui bon, essayent de vivoter comme ils peuvent et pour vivoter, ça aide. Enfin, ça peut aider. Deuxième usage, gérer une situation de chômage. Alors, pour un tiers des auto-entrepreneurs, ils sont au chômage ou menacés de l'être bientôt. Donc, ça peut être une façon d'aménager, hein, le chômage à la marge. Voilà. Alors, ça sert à la fois à. De ce point de vue-là, officialiser le travail au noir, quoi. Au lieu de bricoler pour le voisin, ben voilà, on officialise cette situation. Ça peut servir, ça peut être aussi une occupation matérielle et symbolique. C'est une façon de lutter aussi contre le stigmate du chômeur. C'est le voisin qui dit, mais ils n'ont pas vu, mais à son âge, quoi. Bon, il pourrait peut-être penser à bosser, ben, vous voyez, bon sort de truc, quand il travaille. Voilà. Et ça peut être aussi une assurance ou une solution de ce recours face au risque de chômage. Hein. Comme par exemple le cas de second revenu du foyer, bon, la situation est difficile, on n'est pas sûr de pouvoir payer les traites, on va mettre le gilet jaune aujourd'hui. Voilà, hein, les fins de mois sont difficiles, bon, voilà, ça peut être une façon de boucler les fins de mois. Troisième usage, trouver du travail. Alors ça, c'est spécialement vrai pour les jeunes en situation d'insertion professionnelle ou en quête d'insertion professionnelle, ce qui suppose souvent un appui dans l'entourage familial, parce qu'on ne gagne rien quoi, bon, à faire ce genre d'auto-entreprise. Donc c'est avec des formes différentes, hein. Ça va être le compagnonnage de futurs indépendants. Vous voyez, c'est une espèce d'initiation et de projection dans un avenir d'indépendant pour ceux qui ont un métier, évidemment, ça va avec. Ça peut être une période d'essai de futurs salariés, ce que je disais tout à l'heure, quoi. On vous met à l'essai, mais peut-être vous finirez par venir obtenir un CDI. Voilà. Étant entendu que voilà, ce genre de situation est un point d'appui par rapport à en situation précaire qui suppose très souvent un adossement au système salarial. Et le recours à une aide familiale aussi. Hein. Voilà, c'est aussi bah, c'est bien que la femme travaille, ou au contraire, quoi, bon, pour pouvoir se permettre ce genre de choses. Voilà. Quatrième type d'usage, bah, ça peut être quitter le salariat, hein, tenter de quitter le salariat et accéder à l'indépendance. Bon, C'est typiquement vrai pour les gens, vous voyez, des CAP, BTS, vous voyez, des métiers artisanaux, etc. Bon. Donc, on va, à la fois, ça suppose à la fois un surtravail consenti, hein, c'est le mot d'ordre, c'est obéir au mot d'ordre de Sarko, travailler plus pour gagner plus, quoi. Bon, je me défonce, des jeunes techniciens, bon. Voilà, avec très souvent, là encore, le soutien convivial des salariés, quoi. C'est bien qu'il y en ait un autre, c'est des revenus stables pour payer les traites, quoi, par exemple. Il y a un bel article que j'ai lu de Sarah Abdelnour et de Anne Lambert, hein, qui fait un espèce de parallèle comme ça entre l'accès à la propriété et du logement et l'accès à, oui, au statut d'auto-entrepreneur. Je trouve que c'est un article que je vous recommande pendant la lecture de ma jeunesse, un très bel article. Enfin, très éclairant en tout cas sur la situation contemporaine des classes populaires. En tout cas d'une fraction des classes populaires. Voilà, donc quitter le salariat sur travail consenti et puis. Aussi, bon, une solution alors, compliquée voilà, d'indépendance hein, pour les deux femmes par rapport au service à la personne, hein, bon, qui peut être aussi, on l'a rencontré dans la NR Classe Pop, dans l'enquête de la NR Classe Pop à laquelle j'ai participé. Bon, on voit ça, un certain nombre de femmes qui vont s'installer à domicile pour regarder d'autres enfants comme auto-entrepreneurs, font une espèce de. Des crèches privées, si on veut, hein, qui suppose là encore un soutien convivial. Bon. Voilà. Et bien sûr, avec. Alors, donc, vous voyez, c'est l'accès à la dépendance, l'autonomie, apparemment, mais évidemment, on trompe l'œil, parce que ça veut dire aussi que vous êtes assigné à demeure à la maison, vous faites femme au foyer, quoi. En fait, femme au foyer en grand, en quelque sorte. Voilà. Voilà. Alors, j'ai bon, résumé trop brièvement, voilà, un livre qui comporte plein, plein de choses, qui est extrêmement dense. Donc, je vais ajouter une troisième partie. Pour montrer la portée, à mon avis, voilà, au-delà de ce que c'est, qui n'est pas rien d'ailleurs, hein, ça concerne quand même pas mal de monde, mais voilà, une partie donc, que j'ai en politique, c'est libéraliser la société par le bas. Mais c'est aussi, cette libéralisation, c'est évidemment par le haut, du côté des banques, des grands groupes, mais c'est aussi. Voilà, une autre forme de libéralisation, mode d'exercice de cette politique néolibérale hein, par le bas. Bon, en quelque sorte, donc, c'est de montrer comment ce dispositif s'intègre dans les stratégies politiques néolibérales. Bien. Alors, voilà, on peut dire, ça va dire, je n'invente rien, je suis à faire ajouter une partie, je n'ajoute pas un mot à son propos, je ne crois pas, que c'est au fond une possibilité de. Faire vivre à grande échelle une expérience de l'indépendance. 1 million, non, c'est pas rien, quoi. Donc c'est une forme de libéralisation diffuse par le bas. C'est une forme de promotion d'une idée de soi-même, hein, de ce que c'est que la vie, une promotion de l'entreprise de soi, une valorisation permanente de l'entreprise privée et de l'autonomie. Ça va de soi, ça veut dire entreprendre toi-même, pour être ton propre entrepreneur, entrepreneur de soi, même moi, pour ton entreprise, c'est le titre. La petite entreprise, c'est moi. Bon. Ouais, c'est aussi par ce biais-là favoriser une espèce d'extension aussi à grande échelle de la rationalité économique et entrepreneuriale. On fait l'apprentissage, pas sur le tard, quoi, de qu'est-ce que ça veut dire. Bon, voilà, faire une entreprise qui marche, c'est-à-dire on gagne un peu d'argent plutôt que d'en perdre, quoi, on ne fait pas faillite, quoi, bon, donc, ça oblige en quelque sorte hein, à intérioriser des dispositions économiques entrepreneuriales. Donc, ça, on peut parler même d'un nouveau mode de gouvernement des conduites, montant un peu en généralité excessive, mais bon, je ne crois pas que ce soit faux, quoi, ça invite à, finalement, hein, c'est un renforcement de la rationalité weberienne à l'échelle des individus. Voilà. Et puis c'est aussi, implicitement, mais ça va aussi de soi, un désengagement corollaire de toutes les entreprises collectives, quoi, des structures collectives. Hein, c'est, vous sortez aussi, hein, en même temps que vous entrez dans un truc, un type de rationalité, un type d'entreprise, vous sortez aussi d'un autre, et le collectif, bon, c'est plus vraiment votre truc. Bon, voilà. Donc c'est à la fois comment dire, une promotion. Alors là-dessus, ouais, trois points. Voilà, on peut parler d'une promotion de pratiques économiques liées à l'auto-entreprise, une promotion de pratiques politiques, une espèce de, comment dire, de néo-entreprise de moralisation des classes populaires, mais moderne, modernisée. On peut se demander aussi si ce n'est pas, j'en finirai avec ça, un grand bond en arrière, comme dit certains lignes. Alors, promotion de pratiques économiques. Bah, faut apprendre hein, d'abord, c'est apprendre à se démerder tout seul. C'est, alors, bon, créer son auto-entrepreneur en 3 clics. Bon, qui disent, Parce que ça, parce qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Bon, il y a tout ce que c'est relativement facile à faire. Je peux essayer, mais j'ai failli. Je voulais voir si on pouvait le faire. Là, on m'a invité à faire ça il n'y a pas longtemps. Non, sans blague. J'étais allé parler au
Pour
ministère
expliquer
des
les problèmes
armées.
de compte,
Ouais, et alors, ils me disent, envoyez-moi une
Nos honoraires,
facture.
ouais, on a fait la même
Ah, vous avez fait le même
argent.
coup? Alors, moi,
Ben,
et
on l'a
après,
fait parfait mardi.
ils m'ont dit, ah oui, non, ça va pas, non, ça va pas, non, ça va pas, ça allait jamais, quoi. Alors, ils disent, devenez auto-entrepreneur. Donc, j'aurais dit, merde, et puis, bon, et puis on s'est arrêté là, quoi. Enfin, bref, voilà. Donc, mais ça aurait été une occasion de voir si ça marchait en trois clics, je sais pas. Bon, voilà. Alors, bon, en fait, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a la paperasse qui va avec, quoi. Bon, voilà. Et que. Il s'agit en fait souvent de travailler beaucoup et gagner peu, quoi. Bon, voilà, on a vu ça tout à l'heure. Bon, c'est aussi, comment dire, donc je l'ai déjà évoqué, bon, une façon de subir l'emprise croissante de l'ordre économique et marchand sur la vie des individus, alors, sous un autre angle, celui que je disais plus précis, hein, c'est sous la forme du brouillage de plus en plus fort entre vie privée et vie professionnelle. C'est ça les artisans, alors les commerçants, c'est pareil, quoi, hein, pour trouver hein, les joies de la petite entreprise, quoi, qui est voilà, le mélange indémerdable entre la vie privée et la vie professionnelle. Ce n'est pas forcément... Alors, bien sûr, il y a aussi quelques satisfactions. D'accord, en tout cas, ça peut être l'intérêt de l'activité, ça peut être un revenu qui peut être croissant, ça peut être réaliser un projet, l'idée de bon, faire un peu ce qu'on avait envie de faire, de travailler pour soi, de travailler pour les autres, puis l'accès à l'emploi, tout simplement, pour ceux qui n'ont pas de boulot, bon, c'est mieux que de trouver rien du tout, quoi. Moi, j'ai pris beaucoup de taxis Uber pendant un temps, pour des raisons très particulières, enfin, un temps très très limité, à chaque fois que je les ai interviewés, c'était ça, trouver un boulot, hein. C'était, bah oui, je ne suis pas trouvé mieux, moi je suis pas trop mal payé, enfin il y a pire, oui c'est vrai, je bosse, mais enfin ça va pour le moment, enfin bon, ouais, c'était ça que j'entendais. Bon, voilà. Donc des satisfactions, à commencer par donc échapper au chômage et au stigmate de l'assistanat. Ça peut être aussi, bon, augmenter ses revenus à condition de travailler vraiment beaucoup, c'est vrai pour les taxis, quoi, ceux qui se payent, mais il y en a, hein, 15 heures par jour, bon. C'est un peu rude, quoi. Mais pour cela, effectivement, gagnent un peu pas trop mal leur vie. C'est aussi revendication d'autonomie, j'ai entendu ça aussi. Bah, si je m'organise comme je veux, quoi. Alors, enfin, comme je veux, c'est-à-dire que je me lève à 5 heures du mat et je me couche à minuit, mais c'est moi qui décide. Donc, c'est ça, m'organiser comme je veux, quoi. Voilà. C'est aussi souvent, bien sûr, bon. Une conséquence hein, de l'impossibilité simple d'accès au salariat stable. Voilà. Et c'est aussi, là où vous citez Choté-Vidmez, aussi, comment dire, en la matière, enfin, il est intéressant de prendre la mesure de toute la distance qui sépare hein, la vérité objective de la vérité subjective de l'exercice de ce métier. Alors, je pense que ça, c'est un aspect aussi très intéressant, je crois, hein, de voir effectivement le décalage éventuel qui s'introduit entre les discours qu'on tient hein, sur cette situation. Alors, c'est intéressant de se demander pourquoi est-ce qu'il faut. Voilà, est-ce qu'on peut. Comment ce type-là de discours est possible par rapport à une situation objective de merde, quoi. Bon, voilà, un discours enchanté. Ouais, et, bon, alors, je pense que c'est une question intéressante. Voilà. Alors, deuxième point, c'est aussi une stratégie de promotion de pratiques politiques, une forme, oui, je disais tout à l'heure, de nouvelle forme de moralisation des classes populaires, comme on disait au XIXe siècle, mais new look, évidemment. Bon, on connaît, il connaissait sans doute le vote préférentiel des indépendants pour la droite, hein, c'était une Anna Meyer, une vieille enquête qui montrait ça. Bon, pour des raisons, je crois, qui sont assez faciles à comprendre. Donc, on peut se demander si, voilà, si l'habitus. De ceux qui, enfin les habitudes, parce qu'on a vu qu'il y avait des tas de gens très différents, sont parfaitement ajustés toujours à ce type-là du temps entrepris. Il y avait des situations sans doute, pas toujours du tout du discours enchanté, mais des habitudes voilà, qui sont telles que c'est difficile pour eux, en quelque sorte, hein, de s'ajuster à cette situation d'auto-entrepreneur. Bon, en tout cas, l'auto-entreprise, c'est une façon. Elle a pour elle, en tout cas, hein, des mots d'ordre comme l'égalité des chances. Quoi. Bon, tout le monde a droit à, c'est très mode, tout le monde peut devenir entrepreneur, y compris moi. Bon, peut croire à ça, quoi, c'est une croyance valorisante, hein, c'est aussi une forme d'adhésion floue à l'idéologie dominante aussi, hein, de s'auto-entreprendre, justement, hein, c'est moi, petite entreprise, la valorisation de l'activité, de la flexibilité, de l'autonomie, tout ça c'est bien, quoi, c'est écrit plus quoi, à côté, donc bon, voilà. Et dont il me semble, je ne suis pas sûr que c'est vous qui le dites, comme je le dis volontiers, qu'il me semble que ce type-là de valeurs ont, comment dire, de promotion de mots d'ordre, peuvent, à mon avis, assez facilement s'ancrer dans un ethos populaire relativement traditionnel, lié à, par exemple, l'incapacité de ne rien faire. Bon, ouais, ça fait partie, ça, je ne sais pas, de les hommes de milieu populaire d'autrefois. Bon, je ne peux pas rester assis sur une chaise à regarder la mer, quoi. Bon, je fais quelque chose. Donc voilà, cette espèce d'incapacité à ne rien faire, ben voilà, c'est valorisé. Ça porte à valoriser, hein, l'activité, y compris la suractivité. Ça favorise aussi, hein, c'est un corollaire, hein, le ressentiment à l'égard de ceux qui foutent rien, quoi, des assistés, qui vivent sur les aides sociales, etc. Parce que eux, justement, ils travaillent tout le temps. Ils ne conçoivent pas qu'un homme puisse ne rien faire. Quoi. Voilà. Bon, voilà. C'est aussi, bon, je l'ai dit tout à l'heure, ce que ça implique en termes de désengagement pratique et symbolique des collectifs. Hein, pour des raisons finalement assez simples aussi, hein, liées à l'isolement. Hein, un auto-entrepreneur, ben, il est tout seul, quoi, il travaille pas de collectif, il n'a pas de collègue de travail, quoi, il travaille tout seul, quoi, l'isolement, la distance prise avec le salariat, donc aussi avec l'engagement syndical, il risque pas de rencontrer des syndicalistes, c'est assez peu probable. Bon, donc tout ça s'inscrivant en fait dans un phénomène croissant d'individualisation, que ce soit par rapport au travail ou par rapport au logement, ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà, alors on peut se demander, je vais bientôt finir, oui, je vais finir, si tout ça n'est pas, c'est le titre analyse de Serge Halimi, si tout ça n'est pas finalement un grand bond en arrière, quoi, ce grand bond, est-ce que c'est pas un grand bond en arrière, c'est-à-dire un retour finalement à la situation antérieure, hein, c'est-à-dire à un avant la société salariale telle qu'on l'aurait vécue en France entre 45 et 75, pour faire vite, quoi, c'est l'âme dont on parle à casse-tête. Bon. En fait, l'auto-entrepreneuriat, ça apparaît, je vous cite, comme un outil d'aménagement et donc d'institutionnalisation de la précarité, comme un vecteur d'auto-exploitation pour 90% au moins, hein, d'auto-entrepreneurs. C'est bien de cela dont il s'agit. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi un retour à un modèle ancien, hein, une société où la réussite sociale est individuelle, où le marché est dérégulé, où la protection sociale est privatisée, où la solidarité est réduite à la sphère privée, parce que voilà, c'est la famille, hein, c'est important, la famille, c'est ce qui permet, quoi, aux auto-entrepreneurs aussi d'exister. Donc voilà, l'auto-entreprise, bah, ça sape les fondements du système social, ça déséquilibre les comptes sociaux, ça c'est des effets macro, hein, ça propage l'idéologie de l'individu atomisé et responsable, ça étend un univers permanent de calcul économique, de travail, de discipline, de solitude, d'incertitude, bref, retour à la case départ. Voilà. Voilà, j'espère avoir pas trop mal résumé la ligne générale de ce livre. J'ai du mal à vous poser des questions parce que... non, je vais vous dire pourquoi, parce que d'abord, c'est pas que j'en ai pas, mais j'ai découvert en lisant les œuvres complètes ou presque de Sarah Abdelnour que vous y répondez vous-même à mes questions. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez continué en fait à travailler sur ce décrètement de la société salariale, ce qui fait que bon... voilà, mes questions n'en sont pas vraiment, tant pis. Je vais essayer d'organiser en trois points, voilà, ce sur quoi on peut vous faire parler, sinon on va pouvoir aller vous poser des questions. Voilà, en fait, il me semble que, comment dire, on pourrait parler, je crois, de ce dispositif, hein, inventé par Barre, Sarko, Novelli, etc., comme un dispositif de pompier incendiaire, enfin, il me semble, au sens où, finalement, c'est, ça se veut, un dispositif de lutte contre la précarité qui est un facteur de précarisation. C'est un dispositif de moyennisation qui est, pour accéder aux classes moyennes, qui est un vecteur de paupérisation. C'est un dispositif d'autonomisation qui renforce très souvent la dépendance par rapport aux donneurs d'ordre, par rapport, etc., à la plateforme, etc. C'est un dispositif d'émancipation qui renforce l'aliénation familiale en particulier, hein, qui fait de la famille, l'unité économique, le ménage, il faut reprendre un terme, l'unité économique, quoi, renforce le ménage en quelque sorte comme unité économique permanente, donc aussi qui renforce tout ce qui va avec la division sexuée du travail à l'intérieur du ménage, etc. Voilà. Donc, voilà, première question, au fond, voilà. Oui, on peut, je crois, parler voilà, en ce sens-là d'un dispositif de pompier incendiaire, bon, qui fait voilà, qui aggrave le mal qu'il prétend combattre. Voilà, grosso modo. Bon, c'est pas une question, c'est un constat, mais vous êtes d'accord ou pas. Voilà. Alors, il y a aussi la question, mais c'est pareil, vous savez répondre mieux que moi. La question du retour au passé que j'évoquais tout à fait à la fin, finalement, le retour à Castel, là encore, hein, le vieux Castel d'avant les métamorphoses, hein, c'est-à-dire le retour à la propriété individuelle comme garantie sociale en place de la propriété sociale, quoi, comme mettre en place l'État social. Hein. C'était ça la thèse, je crois, une des thèses centrales de la fin, en tout cas, des métamorphoses de la question sociale. Donc, au fond, est-ce qu'on n'assiste pas, bah oui, à une forme de privatisation aussi de l'État social, reprivatisation, petit à petit, hein. Bon, pas en un coup, mais ça sera possible, mais on y va tout doucement. Quoi. Avec la disparition du droit du travail, on effrite aussi le droit social. Voilà. Donc, dans la même idée, alors, du retour au passé, là, c'est plus une question. Voilà. C'est, mais là aussi, vous avez des réponses, je crois. Est-ce que, finalement, ce type-là de conditions de travail n'induit pas aussi des formes de lutte qui serait elle aussi des luttes du passé. Ou est-ce que, à travers cette nouvelle condition, ne s'invente pas, il y en a quelques exemples que vous connaissez mieux que moi, quelques exemples de luttes modernes, voilà, hein, des luttes nouvelles, des formes de lutte, des nouveaux répertoires d'action qui seraient propres à cette nouvelle condition, ou bien est-ce que, bon, c'est le retour à des formes anciennes, on réinvente le syndicat, des choses comme ça. Voilà, c'est une première vraie question. Et ma troisième chose à laquelle je pensais, que j'ai signalé aussi, vous y travaillez, je sais, donc c'est au fond l'idée de est-ce que l'auto-entreprise et l'extension qu'elle implique du travail indépendant, elle n'est pas finalement annonciatrice d'un truc à beaucoup plus vaste échelle qui s'entend à ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme. Avec Uber, c'est plus connu, mais enfin, il y en a des tas d'autres, hein, qui petit à petit se mettent en place. C'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est pas une espèce de stade préparatoire, voilà, qui, tout se passe comme si, hein, en tout cas, c'était un stade préparatoire à l'invention d'une nouvelle condition salariale déguisée, propice au capitalisme ultramoderne de plateforme. Voilà ce que je voulais vous demander.
Merci beaucoup.